Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello Edouard, j'espère que tu vas bien. Je te laisse cette petite voice, puisqu'il y a un sujet dont on avait discuté quand Kylian Mbappé s'était fait alpaguer par un polémiste sur le plateau de CNews parce qu'il n'avait pas pris la parole suite à l'attaque du Hamas en Israël, de la place du footballeur dans la société, de la manière dont il doit s'engager, du fait que quelle place il doit prendre, est-ce qu'il doit rendre à la société ou pas. Et du coup, j'en ai discuté aussi avec un ami qui est conseiller de Joshua Guilavogui et qui me disait que Joshua Guilavogui avait monté sa fondation, et je me disais qu'en tant qu'international français qui a monté sa fondation dans son pays de naissance de ses parents, la Guinée, on aurait pu discuter de ce sujet-là. Je voulais savoir ce que t'en pensais.
Ah, salut mon beau. Oui. Ah, est-ce que le footballeur doit-il s'engager? Putain, qu'est-ce que cette question m'a hérissé le poil pendant ma carrière, après ma carrière. Et même ce matin, en fin de compte. Non, mais écoute, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis super, si tu peux avoir Josh, c'est top, parce que c'est un super mec, et puis ça me fera plaisir, un, de le voir, et puis d'échanger avec lui, et connaître les raisons pour lesquelles il a créé sa fondation. Donc je te laisse lancer l'affaire, et puis promis, je m'engage à être à l'heure, au rendez-vous. Je t'embrasse, mon beau.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchon.
Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro, nouvel épisode d'Alternative Football. Aujourd'hui, je suis avec Edouard, qui est toujours présent.
Il est toujours là, salut.
Ça va?
Et toi?
Pas mal.
Froidement?
Froidement, mais bon.
Super.
Heureusement qu'il fait froid.
Mais là, on a un gaz qui va nous réchauffer.
En effet, nous accueillons aujourd'hui Joshua Guilavogui. Salut Joshua.
Bonjour à tous. Bon, je sais pas si je vais vous réchauffer. Venant d'Allemagne, il fait beaucoup plus froid.
Dis-moi, tu sais, tu connais toutes les astuces pour nous réchauffer.
Ouais,
quoi.
Ça c'est vrai. Hein, ça c'est vrai.
Tu vas nous réchauffer un peu parce qu'on va parler de la Guinée et notamment de ta fondation avec un sujet. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. À savoir, c'est un sujet assez vaste, une question un peu philosophique. À savoir, qu'est-ce qu'un joueur doit apporter à la société? Au-delà de son statut de footballeur. Et du coup, toi, tu apportes en ayant monté un orphelinat en Guinée. Pourquoi cette cause et quel est le point de départ de cette fondation?
Tout d'abord, c'est un sentiment qui est né en moi, je dirais, après la naissance de mon fils. Lorsque je me suis rendu en Guinée, la première fois, c'était en 2010. Donc, c'est moi qui avais insisté auprès de mes parents. Tu sais que la plupart des parents sont un peu réticents le fait de partir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas encore trop médiatisé. Il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes de santé, des problèmes de transport. Et moi, je venais de commencer ma carrière. Donc, ils disaient plutôt, oui, fais attention. Là-bas, tu risques d'être malade. Comment tu vas faire pour revenir en forme, pour débuter la saison? Mais j'avais en moi ce désir de connaître le pays d'origine de mes parents. Et donc, quand je suis allé, je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Quand tu pars en vacances en Afrique, tu prends un coup derrière la tête. Tu te rends compte que quand tu es jeune footballeur, tu veux vite, rapidement être pro. Quand tu regardes les pros, tu vas avoir une grosse voiture comme eux. Tu vas avoir les mêmes vêtements. Tu veux partir aussi dans les belles destinations comme eux. Et moi, je pense que le fait d'être parti en Afrique, ça m'a vite ramené les pieds sur terre. Je me suis rendu compte que, certes, je faisais le plus beau métier du monde à mes yeux, mais que peut-être que si j'arrivais à gagner assez d'argent, je pouvais changer peut-être pas la vie de centaines de milliers de personnes, mais peut-être d'un petit cocon qui fait qu'eux aussi auront accès à leurs rêves. Et après, j'ai eu la chance aussi que j'ai encore de la famille là-bas, de la famille très proche, qui, eux, aujourd'hui, sont les véritables héros, parce que moi, je me permets de les aider financièrement. Mais c'est eux qui sont allés chercher ces enfants-là dans... Ben moi, je viens de la Guinée forestière, donc c'est une partie de la Guinée qui est très, très retirée. C'est proche de la Sierra Leone. Si tu veux, la Guinée, c'est comme un croissant qu'on a créé sur le bord atlantique. Et moi, je viens vraiment de l'intérieur. Donc, pour te dire un exemple, quand j'étais parti en 2017, pour faire 800 kilomètres, j'avais mis 17 heures chrono en main.
Donc en voiture.
En voiture. Donc, ce n'est pas l'autoroute allemande où tu conduis, où ta vitesse est limitée, où tu peux conduire à 200. Donc, mais pour revenir à ta question, je pense que chacun peut faire quelque chose en fonction de ce que son cœur lui dit. Moi, mon cœur s'est porté vers les enfants. Il y a d'autres personnes, comme tu l'as dit, Edouard, par exemple, s'il y a un cas de maladie dans sa famille, qui peut aussi se rapprocher d'une certaine maladie pour combattre cela, parce qu'il a vécu au quotidien et à travers un membre de sa famille. Et par exemple, comme j'ai dit, Yana, c'est la cause des animaux. Ben moi, je sais que c'était les enfants. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons une fondation qui a 22 enfants. Donc on a 11 garçons et 11 filles, et qui sont tous orphelins, soit de père et de mère, soit uniquement de père ou de mère. Et ils ont entre 3 ans pour les plus jeunes, et la première génération à l'âge de ma fille, donc ils sont nés en 2013 et ils ont eu 10 ans.
Je reviens sur ce que tes parents t'ont dit. Toi, tu leur dis, moi je veux aller en Guinée, je veux aller au pays. Et tes parents ils disent, oui mais attention, tu vois, ils ont fait tellement d'efforts, je pense, pour en partir. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon papa. Papa qui est sénégalais, de la Casamance. Quand je lui dis, papa, je vais au pays, et puis en plus, peut-être que je vais être appelé en sélection. Mon père, il me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais je m'attendais à ce qu'il soit fier un peu.
Ouais.
Il dit, non, c'est ton choix. Mm. Moi, je suis venu en France, t'es né en France, c'est toi qui fais ton choix. Si tu choisis d'aller au Sénégal, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Waouh, j'étais un peu froid sur ce qu'il m'a dit, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais je comprends parfaitement.
Mais c'est assez fou, donc je me reconnais un petit peu dans ce que tu disais. Mais tu vois, tu vas vers les enfants, vers les orphelins. Toi, au sein même de ta famille, t'es pas orphelin, il y a personne. Enfin, l'orphelin, il y a aucun orphelin autour de toi. Qu'est-ce qui te pousse à aller, les enfants? Parce que les enfants en Afrique, il y en a. Les enfants en France aussi, il y en a. Pourquoi l'Afrique particulièrement?
Je suis papa de 2 enfants. Et tu sais, j'ai eu un fils, donc t'as cette un peu ta... Une fille, c'est une reine, c'est une princesse, donc il y a ce lien protecteur. Mais quand tu deviens papa d'un garçon, tu as ce sens de responsabilité. Moi, je sais que j'ai eu mon père et l'aîné d'une famille de 9 enfants. Et moi aussi, je suis l'aîné. Donc, on a un peu ce rôle-là de flambeau, de prendre les responsabilités de nos parents et de les transmettre à l'autre génération. Donc, dès que mon fils est né, j'ai pris encore un petit peu de maturité. Je me suis dit, bon... Maintenant, ça y est, il faut vraiment que tu éduques la prochaine génération. Et donc, je pars en Guinée. Et pour moi, je me suis dit, bon, je vais voir des orphelinats. Je suis déjà allé en Guinée. Je connais la mendicité. Je connais le contexte de pauvreté. Mais le fait de voir des enfants, et comme on explique que quelquefois, on tape à une porte, on ouvre la porte, et sur le pas de la porte, on a un landau avec un bébé de quelques semaines. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, grâce à Dieu, j'ai réussi mon rêve. Il faut que je donne quelque chose. Il faut que je laisse une trace de mon passage. Et pour moi, ça a coulé de source de faire un orphelinat en Guinée.
Et à quel point, du coup, tu dis que c'est pas juste envoyer de l'argent ou un certain montant. À quel point tu t'investis dans l'association? À quel point ça a été dur à lancer? Quelles difficultés tu as rencontrées? Comment on monte ça? Qu'est-ce que tu as découvert en montant cette association?
Je pense qu'en fin de compte, les difficultés, elles seront toujours là. Ça ressemble un peu à la politique. Tu règles un problème pour une certaine personne, ça crée un autre problème pour une autre. Mais des fois, je m'endors, je me dis, oh, putain, je me suis lancé dans un truc, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, dès que tu fais un FaceTime ou dès que tu es là-bas, tu te dis, non, mais en fin de compte, ça vaut vraiment le coup d'avoir quelques problèmes en plus. Mais je pense qu'il faut que ça vienne avec l'âge aussi. Tu ne peux pas faire ça au début de carrière, parce qu'au début de carrière, tu es focalisé sur le fait d'être footballeur Et Edouard, tu le sais mieux que moi, quand tu es footballeur, c'est toujours un éternel recommencement. Donc tu veux signer pro. Dès que tu signes pro, tu veux être titulaire. Ensuite, quand tu es titulaire, bah, tu veux aller dans un plus grand club. Tu veux jouer avec des champions. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Mais en fait, je pense que la plus grosse difficulté, surtout en Afrique, c'est... Bon, on connaît la réalité africaine, il y a beaucoup de problèmes, c'est aussi au niveau des papiers, c'est compliqué, tout est un peu à retardement. C'est pour ça que quand tu pars en Afrique, il faut accepter d'être dépendant des autres personnes. En Europe, on a, ben, surtout en Allemagne, on en parlait, tout est carré, donc tu commences à 8h, à 10h, à midi, à 17h. Là-bas, ben, tu commences la journée et c'est un peu, tu tires une pièce, ça tombe pile ou face, tu dis bon, ben, c'est bon, finalement, ça va passer. Ah ben non, finalement, ça passe pas. Donc ça t'apprend aussi à vivre au jour le jour, et pour l'instant, ça se passe bien. J'ai eu la chance de rencontrer aussi l'ambassadeur de France, Marc Fombostier, qui m'aide beaucoup aussi, qui m'apporte d'autres solutions. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, quand tu prends, on va dire, en charge la responsabilité, l'avenir de 22 enfants, c'est pas uniquement de leur donner à manger, de les apporter à l'école et de les loger. C'est comment on peut faire en sorte que... Il avait utilisé une très belle phrase, il avait dit « Comment réparer un destin qui était a priori brisé ?» Et en fin de compte, il m'avait dit, par exemple, on va essayer de mettre en place une structure avec une psychiatre. Et moi, je n'allais jamais penser. J'ai dit, mais attends, on est en Afrique, tu veux faire quoi avec une psychiatre? On leur donne à manger déjà, voilà, ils vont à l'école et tout. Donc,
un toit à manger, de la chaleur, ça suffit.
C'est déjà beaucoup. Mais en fin de compte.
Ils ont subi des traumas.
Exactement. Et si tu ne parles pas de ces traumas, j'ai aussi un ami, Xavier Hérault, qui m'avait dit, mais nous, ce qu'on sait maintenant par rapport à ces études-là, c'est que si les traumatismes n'ont pas été réglés au plus tôt, c'est des traumatismes qui vont ressortir à l'adolescence et au début de leur vie d'homme ou de femme.
Donc ta journée, comment ça se passe alors? Tu es à Mayence, tu vas à l'entraînement et tu as toujours un petit calendrier, un agenda, un emploi du temps spécial pour la Guinée. Comment tu fais? Comment tu arrives à gérer à distance?
On en revient à ce que je disais, je suis assez mature pour pouvoir découper ma journée. Donc je sais que, par exemple, quand je m'entraîne le matin, je me réveille, je me prépare et ensuite je vais à l'entraînement. Et quand je reviens, plutôt, ça sera plutôt en fin d'après-midi où c'est un petit peu plus calme, où je vais commencer à traiter certains problèmes. Bon, après, si on a un problème, par exemple, on a un problème avec des petits qui tombent souvent malades. Par exemple, j'ai rencontré aussi une personne qui m'a parlé aussi des carences alimentaires. Parce qu'en Afrique, on mange du riz, de la sauce, du poulet, de la viande. Bon, tout ce qui est, par exemple, des carences en fer, en vitamine, bon, pas en vitamine D, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais toutes les autres carences, on n'en parle pas. Et pour moi aussi, c'était... De quoi tu me parles? Tu vois? Et on me dit oui, ben...
C'est top, hein.
Et on me dit oui, ben, c'est à un certain âge qu'il faut faire vraiment attention, il faut faire un bilan sanguin pour détecter, parce que peut-être que plus tard, ils vont manquer de fer, et c'est là que tu vas avoir des problèmes par rapport à leur croissance quand ils vont commencer à grandir, donc c'est pour ça qu'il faut le régler maintenant. Donc moi, pour revenir à ta question, une fois par mois, on fait un gros point. Et ensuite, sinon, c'est de temps en temps, on s'envoie des petits messages. Il faut se fixer un cadre, mais pas de limite. Donc le cadre, on essaie de ne pas déborder au-dessus de 25 enfants qui font que, quoi qu'il arrive, on pourra subvenir à leurs besoins. Mais il ne faut pas se fixer de limite, parce que si demain, il y a un petit ou un petit qui arrive, tu ne pourras pas fermer.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu frustrant, enfin, ça rejoint un peu la question d'Edouard, où au final, plus tu veux solutionner des choses, plus tu te rends compte qu'il y a de problèmes et plus tu te rends compte qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Et est-ce que du coup, il n'y a pas un côté frustrant aussi finalement de se dire, bah, j'ai mis un peu, c'est pas la bonne image, mais le doigt dans l'engrenage, et qu'en fait, bah, en fait plus tu ouvres la porte, plus tu as de problèmes, et donc plus tu te rends compte que ce que tu fais, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que tu pensais au début, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant par rapport à ça?
Honnêtement, c'est pour ça que quand je dis des fois la nuit, je m'endors d'un côté, deux secondes plus tard, je me retourne de là, je dis, mais en fait, compte, il y a toujours des problèmes. Mais je pense que c'est ça l'aventure d'une vie aussi. Tu peux pas. Même quand on a commencé notre carrière, on dit bon, ben moi je voulais être professionnel à Saint-Té. Après, je suis parti à l'Atlético Madrid, ça s'est pas très bien passé. J'ai été très content d'être 9 ans à Wolfsburg. Je suis revenu à Bordeaux, je me suis dit bon, ben je reviens en France, tout va bien se passer, mes enfants vont revenir dans une école française et tout. Et finalement, ça se passe pas bien, on descend en Ligue 2, je repars. Donc, je pense que la vie. C'est qu'à la fin que tu vois le voyage qu'il a donné. Et je pense que chaque décision nous amène dans un autre chemin. On ouvre à chaque fois une nouvelle porte. Et je pense que le but, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive à une porte, qu'on soit capable de l'ouvrir pour continuer et pas la laisser fermer et se dire oh, ben, il faut tout arrêter. Donc, moi, c'est ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois que je trouve une porte en face de moi, avec les personnes qui sont autour de moi, nous sommes capables de l'ouvrir et de poursuivre notre chemin.
J'ai une question qui est un peu pour vous deux. Quand on est footballeur professionnel, qu'on a du succès, qu'on est connu et reconnu, à quel point vous êtes sollicité pour vous engager pour des associations et comment on fait le tri entre toutes ces sollicitations parce que vous devez avoir beaucoup de gens qui vous contactent.
Effectivement, on est tellement sollicité que parfois on n'analyse pas toutes les... On prend toutes les sollicitations de la même manière, alors que ce n'est pas le cas. Investir dans un urban à Marrakech, hein, tu vois, tu as été sollicité 100 fois, c'est pas la même chose qu'éventuellement parrainer une association, tu vois. Mais parfois, ça te vient comme ça, tu dis purée, j'ai l'impression que je suis sollicité, mais c'est pas pour les bonnes raisons.
Et en plus on est aussi dans notre bulle. Moi, je prends l'exemple aussi, ça dépend de ta forme du moment. Si tu brilles de mille feux, tu as plus tendance à être joyeux, ouais. Donc tu vas dire, bon, ben, peut-être je vais signer. Mais si ça fait un peu, tu es un peu plus dans le dur, et pas avoir une superbe association avec un super projet qui vient te voir, mais toi, personnellement, tu ne te sens pas bien, tu vas dire non. Alors que peut-être, 3 mois plus tard, tu pourrais dire oui, potentiellement. Et donc, c'est compliqué.
Tu pointes du doigt un truc. Quand on est footballeur professionnel, il faut se blinder. Enfin, je sais pas comment t'étais, mais à un moment donné, tu te blindes et tu te coupes un peu de tes émotions. Et du coup, quand t'as une association qui vient, tu l'accueilles pas comme... Bah, par exemple, là, tu m'envoies des lettres d'association ou pour parrainer, tout me fait mal au cœur parce que maintenant, je suis tout raplapla, je suis tout ramouli parce que je suis plus footballeur pro. Mais quand t'es un sportif, t'es coupé de tes émotions, t'es coupé un petit peu de toi et tu dis, ouais, c'est dur, mais bon, la vie, elle est dure, tu vois. Donc, c'est ça aussi que ça t'empêche pendant ta carrière. Donc, c'est pour ça que toi, ce que tu as vécu, bah, tu l'as dit, hein, tu venais d'être papa, donc tu as été un peu plus ramolli. Ouais, tu t'es ramolli. On est, quand on devient papa, quand on devient parent, on devient un peu plus soft. Et c'est ce qui fait que là, bam!
Alternative football.
Est-ce que vous sentez une pression de la part de la société? Mais tu as dit redonner.
Ouais.
Est-ce que vous sentez la pression de la société, étant donné que la société estime que vous gagnez beaucoup d'argent et qu'on vous renvoie le fait que vous gagnez beaucoup d'argent, est-ce que vous sentez une pression de la société pour que vous fassiez ce type d'action ou monter des fondations parce que la société attend que vous lui redonniez ce qu'elle vous a donné, quoi, un peu? Est-ce qu'il y a une pression que vous ressentez dans le jugement des autres, dans les paroles des autres ou pas?
Non, moi, je te l'avais dit, moi, le footballeur, moi, il n'y a aucune attente de la part du footballeur. Par contre, le citoyen derrière le footballeur, oui, s'il veut. Mais moi, en tant que footballeur, je suis redevable. J'ai été redevable envers mes clubs, parce que c'est eux qui me payaient, donc je devais être bon. parce qu'ils me payaient, donc je devais être performant. Mais voilà. Et après, par rapport au citoyen que je suis, l'homme que je suis, les 19h, les 19 autres heures, hein, de la journée, bah là, oui, là je peux m'engager pour plein de choses. Pour ma ville, pour ma ville, pour les enfants maltraités, pour les animaux, pour ce que je veux. Là, ça a du sens.
Je pense aussi qu'il faut savoir dissocier l'homme du footballeur. Parce que, comme tu as dit, le footballeur doit rendre à la société. C'est comme le footballeur qui doit rendre au public. Donc, on va parler de l'OM parce qu'Edouard a joué aussi à Marseille. Donc, à Marseille, on a vraiment ce slogan où il faut mouiller le maillot. Donc ça, c'est un devoir du footballeur à rendre à la société qui est minime, le public. Mais le footballeur, il ne doit pas rendre à la société à l'échelle, on va dire, nationale ou quelque chose comme ça. C'est comme si, ben, c'est certes, on gagne beaucoup d'argent, on en redonne aussi pas mal à la société à travers les impôts.
Bien sûr, ouais.
Mais il faut savoir le dissocier parce que le footballeur, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on juge? On juge le footballeur ou on juge l'homme? Parce que moi, je connais des footballeurs qui sont extrêmement talentueux et qui sont... on ne peut pas dire des mauvaises paroles dans un podcast, mais qui ne sont pas des...
Égoïstes
et qui pensent qu'à eux-mêmes. Et je connais des joueurs qui ne sont forcément pas aussi talentueux, qui ne gagnent pas les mêmes salaires, mais qui redonnent énormément. Donc, c'est ça.
Désolé.
Voilà, toi aussi, tu vas redonner un peu.
Et directement,
voilà, je t'envoie le rib. Mais voilà, donc c'est compliqué parce que je pense qu'on aurait tous aimé être des Mohamed Ali, être des porte-drapeaux, abandonner une ceinture mondiale pour ne refuser d'aller à la guerre contre le Vietnam et tout. Mais c'est compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire, honnêtement, 100%, si à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, tu dois avoir le même engagement envers la société. Ça, je peux pas te le dire parce que il faut s'intéresser aussi. Ouais, si on parle, j'ai un ami par exemple quand il y a eu le corona, il y a un ami à moi qui a tweeté un ancien joueur, il a tweeté, lui il était complètement contre le corona, mais il faut voir ce qui lui est retombé dessus. Il dit, mais t'as pas honte, tu te prends pour un médecin, tu comprends rien. Ma grand-mère elle est décédée du Covid. De quel droit tu t'oses toi qui court juste derrière un ballon, parler d'un thème comme cela.
Mais tu vois.
Tu vois ?
Non mais...
Et maintenant, on lui dit, oui, mais il faut que tu dises quelque chose. Donc, c'est un poids de mesure, en fait. Tu peux parler, mais pas trop, parce que t'es que footballeur et t'as pas les...
Et sur certains sujets, là, tu dois parler. Et là, on va t'écouter.
Voilà.
Pourquoi ? Ben si, parce que t'es connu. Ben oui, mais non, tout à l'heure, la dernière fois, j'ai parlé, je me suis fait taper sur les doigts. Voilà, non mais c'est... Oui, c'est un peu ça. Ouais.
C'était un peu le sujet, c'est un peu le sujet qui nous animait derrière la question un peu de qu'est-ce qu'un joueur doit apporter à la société, parce qu'au-delà de l'engagement, il y a aussi l'engagement par des actions, mais il y a l'engagement par la parole, parce qu'il y a eu, dernièrement des polémiques avec l'attaque en Israël, où on a, sur certains plateaux de télévision, on a dit que Mbappé, Omar Sy, des acteurs, des artistes, on ne les entendait pas parler sur ce thème-là. Donc la question, et c'était un peu le double discours que tu soulignes, de savoir qu'à un moment, c'est on attend qu'ils s'expriment, pourquoi vous ne vous exprimez pas? Et d'un autre côté, quand ils s'expriment et qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est ferme ta gueule et joue que au foot, te demande de taper dans un ballon. Et du coup, comment on le vit quand on est footballeur, ce double discours-là, cette double attente qui est contradictoire, quoi?
Non mais, et tu vois, on parle de Mbappé, on parle de Omar Sy, comme si ces deux personnes qui sont successful avait la science infuse. Mais même moi, en tant que j'ai 45 balais, l'avis de Kylian sur ce sujet-là, j'en ai rien à fiche. Tout ça parce qu'il est super connu. Et puis il a que 25 ans. Il ne connaît pas. Et donc j'attends pas son avis. Et pourquoi à chaque fois les gens attendent qu'une personne connue, un acteur ou quoi que ce soit, donne son avis? Tu donnes ton avis si tu es calé sur le sujet. Mais si tu n'es pas calé, juste parce que tu es connu, tu vas donner ton avis et là, oui, c'est pas bien. Ah non, je trouve ça, c'est aberrant. Donc tu donnes ton avis, que tu sois connu ou pas connu, parce que tu connais le sujet et parce que ça va avoir vraiment une vraie valeur ajoutée au débat. Ça ouais, sinon tu te tais.
C'est quoi ta limite toi pour t'exprimer ou pas selon les sujets ou selon l'actualité?
Je pense que le plus important, c'est quand on parle, il faut savoir qu'on maîtrise le sujet. Si je t'argumente quelque chose, tu me donnes un contre-argument, je suis capable de te répondre. Mais si je ne suis pas capable, je vais te dire oui, ben non, oui, ben oui. Et tu vas me dire pourquoi, je vais te dire quelque chose et toi-même tu vas dire ouais, ben finalement il aurait mieux fallu qu'il joue que au football. Donc pour revenir, Mbappé à l'heure d'aujourd'hui, il est très reconnu, il est idolé par rapport à son jeu, son football. Donc s'il veut parler, il peut parler et il en assumera les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il est inhumain, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se protège. On en revient à l'histoire de Bull. Dans certains conflits, tu as plus à gagner qu'à perdre. Et est-ce que ces deux personnes-là sont en mesure de stopper le conflit? Si Mbappé aujourd'hui dit quelque chose et qu'il est capable d'arrêter la progression du Covid, la pauvreté, la guerre en Russie, le conflit israélo-palestinien, c'est plus un footballeur. Peut-être que c'est celui qu'on appelle tout en haut.
Voilà.
Peut-être que c'est lui, mais à l'heure d'aujourd'hui... Il faut remettre les choses dans son contexte. On veut que les footballeurs parlent, mais on veut les entendre dire ce que l'on veut. Donc en fin de compte, c'est même plus une liberté d'expression, c'est une liberté d'expression mais encadrée. Donc tu dis
tu
ça.
Tu parles mais tu dis ça.
Tu dis ça. Donc en fin de compte, honnêtement, moi je préférais quelqu'un qui ne parle pas du tout que quelqu'un qui a reçu un texte et qu'on lui impose de dire quelque chose. Et pourtant, chacun de nous ici a son avis par rapport à différents thèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas en famille, on n'en parle pas avec ses amis. Mais est-ce qu'on a la capacité à changer quelque chose? Je ne dis pas qu'il faut se taire, mais il faut, si tu parles, il faut en assumer les conséquences. Et surtout, il faut t'y connaître. Il faut connaître sur le bout des doigts qu'est-ce qu'on parle. Comme le Covid, on ne peut pas dire « oui, je suis pour, je suis contre ». Oui, le conflit israélo-palestinien, je suis contre eux, ou je suis pour eux, ou je comprends, ou je suis, je ça. Non. Est-ce que tu es capable de me tracer l'origine du problème, pourquoi, le comment? Est-ce qu'on peut discuter déjà, avant de donner un avis? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que tu peux me faire comprendre pourquoi il y a ce problème-là? Oui
tes
ou non?
Arguments, ouais. Exposer tes arguments, je voilà. T'expose les miens, et peut-être qu'on va peut-être éventuellement pas trouver de solution, mais on va mieux comprendre comment tu ce que tu penses, ce que tu comprends et tout ça. Et voilà. Et puis, tout simplement, on parle d'Mbappé. Mbappé, il a 25 ans. T'étais où? T'étais comment à 25 ans? T'étais pas comme maintenant. Donc à 25 ans, c'est un super joueur, c'est un top player, il n'y a aucun souci. Mais laissez-le s'exprimer sur le terrain, laissez-le de temps en temps juste de rentrer en polémique. Je préfère jouer à gauche ou à droite, ça va. Mais le reste, lâchez-le quoi.
Déjà, rien qu'on lui reproche de ne pas jouer attaquant, on veut déjà lui imposer quelque chose. Donc c'est dommage, mais il arrive et je prends en général, tout le monde du sport, on arrive à avoir des émotions décuplées grâce au sport. Restons dans le sport. Jugeons-le par rapport à ça. Je pense qu'on a tous vu la finale de la Coupe du Monde quand il met les triplés. On a tous sauté de joie et tout. Donc pourquoi aller le juger sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas autant que le terrain?
Et demander son avis. Peut-être qu'après, il donnera son avis parce qu'il aura envie. Il s'exprimera sur un autre sujet qui lui tiendra à cœur. Et là, c'est bien. Mais tu vois, c'est ce côté en France ou dans le monde, parce que la personne, elle est connue, il faut qu'elle ait un avis sur ce sujet-là. Ben non, je suis désolé, je n'ai pas d'avis sur ça. Et le footballeur, c'est la même chose. Et le footballeur, ce qui est terrible, c'est qu'on dit, t'as fait un centre de formation, toi?
Ouais.
Voilà. Centre de formation, j'en ai pas fait. Mais centre de formation, on te fait comprendre que pense foot, mange foot, dors foot. Et le reste, tu ne penses pas au reste. Donc, et sitôt que tu commences à signer ton contrat professionnel, on va te demander des avis sur tout et n'importe quoi. Mais pendant tant d'années, vous m'avez dit de me concentrer sur le foot. Maintenant, il faut que je donne un avis sur autre chose. Vous ne m'avez pas donné les outils pour penser à autre chose que le foot.
Exactement.
Donc, moi, je pense qu'au foot. Et donc, ne me posez pas d'autres questions. Donc, c'est un peu tout ça. Alors, moi, j'exhorte tout le monde, à tous les footballeurs, à penser à autre chose que le foot, parce que c'est un plus pour ton football. Je pense que le fait que tu aies créé ton orphelinat, ça t'a rendu meilleur en tant qu'homme et donc meilleur en tant que footballeur.
Exactement.
Hein, tu relativises. Quand tu as perdu 3-0, tu dis, c'est pas grave. Demain, je vais au boulot. Et donc, c'est un peu tout ça, s'exhorter, s'ouvrir un peu l'esprit. Mais c'est sûr qu'on peut pas reprocher aux gens et aux footballeurs ou aux acteurs de penser qu'à leur boulot parce que dont les amis pensent qu'à ça. Ouais, je sais pas si j'étais assez clair, mais en tout cas.
Si. Et comment vous faites quand on vous demande de réagir, ou comment tu as fait, ou comment tu fais quand au sortir d'un match ou dans une interview ou en conférence de presse, il y a un sujet d'actualité ou une polémique et qu'on vous demande de réagir dessus, comment vous en sortiez ou comment vous réagissez par rapport à ça?
Moi, c'était très clair. Je disais, j'ai un avis, mais je ne le donne pas.
Ça, c'est une très belle réponse. Je vais l'utiliser la prochaine fois.
Non, mais tu sais quoi? Non, mais c'est vrai. Et tu sais, mais c'était un truc tout fou. C'est-à-dire, mon père, il me dit, écoute, parle pas politique. Mon père, il avait toujours peur de ça. Il me dit, réponds foot, parle pas politique. Il savait que j'aimais bien, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. Quand tu es une interview, là, après match, alors à Mayence, vous avez fait ci, vous avez perdu ça, vous avez perdu beaucoup de ballons, et tac. Et la dernière question où tu sais, t'es un peu énervé, il t'a bien monté et il te pose la question qui tue. Ah là, tu sais quoi, tu peux vite péter. Non, j'ai un avis par contre. Tu vois, je donne pas mon avis, mais par contre j'ai un avis. Juste pour dire, oui, j'ai un avis, je vais pas vous le donner. Point barre. Ah d'accord, moi je répondais ça.
Tu t'es retrouvé dans ce genre de situation où t'as demandé ton avis sur un thème ou autre et tu t'es retrouvé bloqué par un journaliste, ou comment tu t'en sors, ou comment t'as évité ça?
Non, je pense que le dernier en date, ça a été forcément le Covid. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Nous, c'était plutôt, oui, comment ça se fait que vous, les footballeurs, vous pouvez jouer au football alors que la plupart des gens n'ont pas le droit de travailler, c'est une honte. C'est peu, mais c'est, ouais, là-bas, c'est, en plus, nous, les Allemands, on a été les premiers à commencer.
Ouais.
Donc, on voulait avoir l'exemple. Finalement, tout le monde nous attendait et nous ont critiqués. Mais comme j'ai dit, tu règles un problème, ça en est pour un autre. Nous, on a fait au mieux pour pouvoir jouer notre football. Si ça peut donner des exemples pour d'autres métiers, de passer, je sais pas, nous on avait fait 15 jours en quarantaine, on n'avait pas le droit d'aller à la station d'essence, on n'avait pas le droit d'aller faire les courses, on avait beaucoup d'interdits pour pouvoir jouer au football. Donc c'était plutôt sur cette question-là. Et comme j'ai dit, ben écoutez, si on a fait en sorte que ça puisse passer, pourquoi s'en priver ? Tout simplement. Donc il faut essayer d'aller au plus simple possible, parce que pour faire de grands débats, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais pour trouver une solution courte, là, il y a beaucoup de problèmes. Donc, moi, comme j'ai dit, j'essaie de donner mon avis, mais tu ne peux pas aller trop profondément, parce que justement, après, tu risques de faire naître une polémique. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, on le voit rien qu'avec notre équipe de France, hein. Quand l'équipe de France fait un bon match, ok. Quand l'équipe de France ne fait pas un bon match, on a que des entraîneurs, ouais. Des attaquants, des 6, des 10. Donc c'est compliqué.
Et comment tu gères les réseaux sociaux, justement? Parce que maintenant, même un like, même de liker une publication d'un autre, ça devient comme si c'était un assentiment, comme si tu avais exprimé ton... Comment tu t'en sors avec les réseaux sociaux? C'est zéro réseaux sociaux, ou comment tu gères pour pas...
Honnêtement, moi j'aime... J'en ai besoin des réseaux sociaux, déjà à travers ma fondation, pour la faire connaître. Mais je pense que je suis un peu nostalgique du temps où il y avait moins les réseaux sociaux. Je pense que vous...
Il m'a regardé, je pense que toi, t'as pas connu le Minitel. T'as connu le Minitel,
non, t'as vu, j'ai
le
pas
pigeon
dit
voyageur. Arrête.
J'ai pas dit toi, j'ai dit vous.
Vous,
vers la génération 75, là, vous êtes... Non, mais je pense que maintenant... Comme tu as dit, t'as plus à perdre qu'à gagner. T'as plus à perdre qu'à gagner. Et c'est dommage, parce que à la base, les réseaux sociaux sont faits pour partager notre quotidien. Donc peut-être que tu peux inspirer d'autres personnes, les jeunes d'aujourd'hui, de dire oh, ben, regarde comment vit ce joueur-là. Moi aussi, j'aimerais bien le faire. Ou regarde ce qu'il a créé. Ben, peut-être que moi aussi, si un jour je suis footballeur, je peux gagner assez d'argent pour aider d'autres personnes. Mais maintenant, rien qu'un like, il peut te mettre en porte-à-faux pour ta carrière. Pour ta carrière. Donc c'est il faut avoir une grande maîtrise, une très 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 grande maîtrise, c'est ce que je pense.
Et est-ce que les footballeurs doivent-ils être des exemples?
Tu sais, à chaque fois qu'on commence une phrase avec doivent ou devoir, moi ils doivent rien faire. D'ailleurs, c'est pas des exemples. Un footballeur, déjà, même Josh, il va le dire, si jamais il fait un tacle, l'arbitre, un tacle assassin, l'arbitre n'a pas sifflé, hein, il récupère le ballon, il fait une passe d'est, il y a but, je pense que tu vas célébrer ton but. Donc t'es un petit peu un escroc, entre guillemets. On est d'accord ? On peut tricher de temps en temps, tu vas pas dire... Voilà. Donc on n'est pas des exemples, hein. Certainement pas, il faut pas les prendre comme des exemples. Ça peut être éventuellement... Des exemples dans le sens où, putain, c'est des rôles modèles, quoi. Non, on n'est pas... Non, moi, je n'y crois pas du tout. Il ne doit pas l'être. Et déjà, un homme politique ne l'est pas. Donc, je ne vois pas pourquoi le footballeur devrait l'être. Voilà. Il n'y a rien qui doit être.
Ouais, je partage totalement
tu
ton avis.
Tu peux être en désaccord. Hein.
Non, au contraire, je suis totalement derrière toi. T'es mon ancien, quand même. T'es mon parent, donc... Pas me faire tirer les oreilles. Mais non, honnêtement, c'est... Comme on l'a dit, chaque homme a sa part d'ombre et sa part de lumière, et encore plus au football, parce que tout est démesuré, comme tu l'as dit. Maintenant, il y a la VAR, donc on peut moins tricher, mais je prends l'exemple de Thierry Henry quand il a mis la main contre l'Irlande. En France, on l'a détruit. Alors que je reprends l'exemple de Suarez quand il met la main contre Ghana en Coupe du Monde, c'est un idole.
Ouais.
Donc c'est encore un poids de mesure, c'est une question de culture. Donc pour nous, qu'est-ce qui est être en France, qu'est-ce qui détermine être un exemple? Et être un exemple en France, ça veut pas dire que tu vas être aussi adulé à l'étranger. Comme par exemple, d'autres joueurs ont fait une super carrière à l'étranger. Et quand ils sont arrivés en France, ils ont été décriés. Donc, c'est... je ne pense pas qu'ils doivent être... on doit tous aspirer à être un exemple. À travers, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les grandes stars ont des millions de followers. Donc, on sait qu'ils peuvent, mettre le doigt sur certains sujets et mettre en lumière. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un top footballeur, que c'est une top personne.
Et est-ce que toi, tu sens, en étant footballeur, et tu te sens une responsabilité ou pas ?
Oui, quand même. Quand même, ça serait mentir de dire pas du tout. Et encore plus lorsque je suis devenu fondateur de ma fondation. Mais comme j'ai dit, il faut garder le jugement par rapport au football. Si tu me juges en tant que footballeur, tu peux... Et j'accepterai toujours les critiques. T'as pas bien joué, t'as pas été bon, t'as perdu trop de ballons, tu nous as coûté le match et tout. C'est mon métier. Je fais un métier, on va dire, public, où il y a des gens qui ont le droit de donner leur avis sur ma performance. Par contre, quand ça touche l'être humain, c'est beaucoup plus difficile. Et on en revient aux réseaux sociaux, par exemple. Maintenant, les réseaux sociaux sont une grande façade pour le racisme. On l'a vu avec l'Angleterre quand Bukayo Saka, Rashford et Sancho ont raté le penalty. Ils se sont fait détruire. On le voit aussi quand il y a eu aussi quelques joueurs français qui ont fait des erreurs, on leur tombe dessus. J'ai vu la dernière fois aussi, c'était Jules Koundé qui parlait, il avait pris le petit pont contre la Grèce, il me semble, ouais. Et le but derrière, lui aussi, alors que le gars il joue à Barcelone, il est titulaire indiscutable et on n'a pas le droit de parler de sa performance, ça arrive à tout le monde. Donc c'est compliqué parce que, comme j'ai dit, on est footballeur, mais on est des êtres humains avant tout. Et quand tu vois ce genre de commentaires, tu te refermes. Donc tu deviens aigri et on en revient à l'autre. Le lendemain d'un match comme ça, excuse-moi, on a une superbe association qui veut venir, elle voudrait discuter avec toi. Est-ce que tu veux le faire ? Non. Pourquoi ? Non, j'ai pas envie. Et tu veux pas te montrer faible, donc tu vas pas expliquer le pourquoi. Et donc cette personne a dit de toute façon je suis un con et tout, et il a dit non. Alors que derrière il y a une conséquence, il y a un traumatisme qui fait que j'ai dit non à cette question, alors que dans 90% des cas j'aurais dit oui. Et donc c'est pour ça que les footballeurs ne doivent pas être un exemple, mais doivent aspirer à être un exemple.
Moi je trouve qu'on idéalise trop les footballeurs. Tu vois, en tant que joueur, tu vois, c'est pas que j'en ai profité, mais le titre, tu vois, est-ce que le footballeur doit, le footballeur il doit rien, tu vois, le footballeur c'est quoi, c'est un mec qui joue très bien au football, ni plus ni moins. Donc le footballeur en tel, en soi, il doit absolument rien. Il y a un fantasme derrière, la plupart, on veut tous devenir footballeur professionnel parce que, et on fantasme, si j'étais footballeur professionnel avec tout cet argent, je ferais ça. Si j'étais footballeur, je roulerais dans cette voiture, j'aurais ci, j'aurais ça, je ferais ci. Ouais, mais ça, c'est du fantasme. C'est votre fantasme. Voilà. Et si j'étais acteur, je ferais ça, je soutiendrais ces causes-là. Mais en fin de compte, on est juste des hommes. Hein.
Est-ce que c'est pas propre à la France aussi, par exemple, pour le foot, étant donné qu'il n'y a pas vraiment une culture foot en France et qu'il y a une vraie séparation entre le corps et l'esprit. On l'a vu d'ailleurs avec la main de Thierry Henry, c'était beaucoup d'intellectuels, de gens qui parlaient, de politiques, qui donnaient leur avis sur la main de Thierry Henry, alors qu'ils n'avaient jamais joué au foot, qu'ils n'aimaient pas le foot, c'est peut-être la première fois dont ils en parlaient. Et est-ce que le fait qu'on ne soit pas un pays de foot fait que c'est d'autant plus dur d'être jugé en France, là où tu disais qu'un Suarez, par exemple, peut-être qu'on ne leur demande pas autant de s'engager même dans une association, ou même s'ils avaient fait un like, ils seraient moins jugés. Est-ce que vous pensez que c'est plus dur ?
Ce qui est terrible dans le cas de Thierry, c'est qu'on l'a fustigé parce qu'il avait triché. C'est de la triche. Qui ne triche pas ? Dans la vie de tous les jours, qui ne triche pas ? Des étudiants trichent pour avoir une meilleure note. Des hommes politiques trichent. Ils mettent de l'argent à droite à gauche. Ils mentent parfois pour bien se faire voir. Donc, c'est placer le footballeur au-dessus de l'homme qu'il est, en fin de compte. On n'est pas parfait. On a des failles. Et voilà. Et un footballeur, il a des failles. Et les hommes politiques ont des failles, tous les hommes ont des failles. Et donc le footballeur de surcroît, puisque c'est un homme qui joue très bien au foot, Abel a des failles. Donc c'est pour ça que il faut pas le placer au-dessus, ça doit pas être un exemple. Chacun, tous les jours, on doit se lever en essayant d'être le meilleur possible, moins pire qu'hier, tu vois. Et d'essayer d'être progressivement apprendre au fur et à mesure. Tu as dit qu'à 25 ans, tu étais comme ça, 30 ans, tu es comme ça, et tu verras à 45, tu seras. Tu sonnes vieux, quoi. Mais voilà, et on deviendra sage, quoi. Et avec l'âge.
Et si je me fais l'avocat du diable, est-ce que le public est en droit de demander aux footballeurs ce qu'ils leur demandent et de s'engager et de s'exprimer, ou le public n'est pas en droit de vous le demander ? D'avoir cette pression-là ou cette attente vis-à-vis de vous.
Attends, là, t'as deux choses, là. S'engager par rapport à qui ?
S'engager par rapport à une association, rendre un peu à la société, et ou juste s'exprimer. Quand les gens demandent à Mbappé de s'exprimer, est-ce qu'ils sont en droit de le demander ou pas ? Est-ce que le public est en droit, selon vous, de vous demander autant de choses ?
Là, je vais te répondre ce que j'ai répondu tout à l'heure. Le public est en droit d'attendre de nous de les divertir pendant 2 heures, de voir des buts, de voir des sauts, de vivre des émotions. Quand je vais au théâtre ou au cinéma, moi, je m'attends, je paye ma place, 15 balles. Oui, je me fais avoir, à ce qui paraît, si j'avais un abonnement, ce serait moins cher, bref. Et je vais voir, et pendant 2 heures, je veux me divertir. Et si je ne me divertis pas, je rentre chez moi, je dis, le film n'était pas bien, et je passe à autre chose. Mais je n'attends pas plus que ça. Voilà. Et donc, un supporter, je pense, ça devrait... Après, je parle à la place d'un supporter. Moi, quand je vais voir les matchs, pendant 2 heures, je veux vibrer, je veux avoir des émotions. Ah putain, ce dribble, ce petit crochet, cette frappe, ouais, super. Je rentre chez moi, ciao, bonsoir. Mais pas plus que ça. Pas plus que, pour moi, pas plus que ça. Parce que je sais qu'il y a 22 hommes et on a tous des failles. Voilà.
Qu'est-ce que ça t'inspire, les propos de ton aîné ?
Moi, c'est un non catégorique. Le public peut attendre du footballeur qui performe, qui soit bon, qui mouille le maillot, qui même le slogan, ouais, il touche des millions, il peut faire plus, tout ça, ok, pas de problème. Mais tu peux pas attendre, parce qu'une personne joue bien au football, qu'elle puisse avoir un avis sur tous les débats de la société. C'est pas possible. Et peut-être que lui-même, il s'en fout. Peut-être que lui-même, il s'en fout. Donc pourquoi il devrait répondre ? Il y a des personnes, et pas que des footballeurs. Tu peux prendre un journaliste, des maçons, des trucs comme ça. Ils ont des débats où ils n'ont aucun avis parce qu'ils s'en foutent.
Et regarde, je te raconte une anecdote. Et c'est, moi, ça m'a interpellé. On est en pleine écologie, là. On est dans l'ère de l'écologie. Faites attention aux émissions et tout ça. Quand tu regardes la sortie des footballeurs professionnels, on va dire, par exemple, comme petite dédicace à mon acolyte Mathieu Lille-Palette, du Paris Saint-Germain. Combien de joueurs ont une Tesla ou une voiture électrique ? Il n'y en a aucun. Faut pas leur parler d'écologie. Ils sont pas dans le délire, c'est pas grave. Donc ils ont tous des grosses voitures, des SUV, des Lambos, des ceci, Donc, et moi, je leur jette pas la pierre. Ils ont 22, 23, 24 ans. Pff, franchement, moi, quand j'avais 22, 23, 24 ans, je ne pensais pas à l'humanité, à la planète, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est des choses qui viennent après, peut-être. Ou alors, si tu es focus dans ça, toute ta vie, tous les jours, tac.
Ou qui doivent venir du club.
Mais le club, c'est pareil. Le club, à un moment donné, c'est pas non plus...
C'est une institution, c'est une entreprise. Une entreprise, tu représentes ton entreprise, comme Sopress représente...
Elle peut t'éveiller, mais après, c'est une dictature. Après, moi, ça me dérange pas du tout d'une dictature. Hein.
Mais
qu'on se le dise.
Le débat qu'on avait eu, c'est aussi le Maxime Marchon chez Sopress, il n'est pas pareil que le Maxime Marchon en privé. Donc, tu as aussi un comportement à avoir de par ton employeur. S'il te demande des choses, en retour, tu signes un contrat. Donc, je m'attendrais plus à ce que... En fait, mon propos, c'est plus... On doit plus en attendre du club que du joueur en soi. Mais comme le joueur a plus de pouvoir maintenant que certains clubs et certaines institutions... C'est pour ça qu'on se tourne aussi vers les joueurs, parce qu'on se dit, t'es plus important, t'as plus de followers. Mais si t'as plus de followers que le PSG, t'es plus important que le PSG, donc à toi d'être...
Je pense que Josh, il me rejoindra. On parle du joueur en général, mais c'est pas tous les joueurs qui ont du pouvoir.
Non, c'est ça.
Il y a très peu de joueurs, donc les grosses stars. Quand on dit à Paris, les joueurs, ils sont au-dessus de l'institution. Messi, Neymar, Mbappé, ça fait 3 joueurs qui sont au-dessus de l'institution. Donc, mais parce que ces 3 joueurs sont au-dessus de tout. Cristiano Ronaldo, et je peux t'en citer, on va dire, une dizaine dans le monde. Il y a 4000 footballeurs professionnels. Donc les autres, ils font comme tout le monde, ils ferment leur tête, ils ferment leur bouche. Bon, et point barre. Donc c'est un joueur, c'est des joueurs, c'est des superstars. Comme au cinéma, je pense, je sais pas qu'il y a des, sans eux, il y a pas de film quoi, tu vois. Mais sinon, la grande majorité, les trois quarts, je dis moi, les 9/10 des joueurs, on ferme notre bouche et on joue quoi. Il y en a un, voilà, il y a le pourcentage là, 1%, même là encore, je suis gentil, 1% ou 10%, 1% des stars qui font, eux, ils sont au-dessus du lot. Mais parce que sans eux, parce que c'est eux qui font venir le monde, c'est eux qui font venir les stars, les gens au stade, c'est eux, c'est grâce à eux qu'il y a les sponsors qui payent autant, tu vois. Voilà, et puis par contre, les autres, sans manquer de respect, hein, tu peux être un très bon joueur, hein, mais tu resteras toujours en dessous de l'institution. Voilà. Ça, c'est mon point
de vue. En plus, il y a beaucoup de footballeurs aussi qui n'aiment pas la notoriété. Il y en a plein, ils ont dit oui, moi je veux venir jouer au football et vite retourner chez moi et rester chez moi avec mes amis. Donc, on leur impose des. C'est presque un fardeau parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Mbappé, on attend de lui qu'il parle de quelque chose alors que c'est pas dans son devoir. Et ce fardeau-là, il est lourd à porter. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs, ils jouent au foot parce que c'est leur passion, parce qu'ils aiment ça. Mais après, tout ce qui touche autour du football, ils veulent pas le faire. Même des fois, il y a des rencontres avec les sponsors, tu vois qu'ils sont très mal à l'aise. Et t'attends de ces personnes-là qui parlent devant des millions d'autres personnes par rapport à un thème aussi difficile. Alors que des fois, je t'assure, tu vois un joueur sur le terrain, tu dis, mais lui, oh, là, il a une aura, il a une prestance. Et tu le vois avec les sponsors, il est comme ça, il parle pas, tu vois, il te regarde même pas dans les yeux et tout. Tu dis, mais.
Mais parce que c'est pas un commercial, tu dis, c'est pas le mec, bonjour, alors, les promotions, les fruits et légumes. Non, c'est pas son truc.
Ça.
Et puis surtout, parfois, c'est pas sa nature. Le mec, il y en a qui. J'ai connu des joueurs qui rayonnaient, sitôt qu'ils étaient sur le terrain. Tu dis, waouh, en dehors, allô? C'est qui le mec qui ressemblait à rien. Je pense à Barcelone, jouant avec Xavi Iniesta. Quand tu les voyais sur le terrain, tu dis super. Tu les voyais habillés avec leurs vieux survêtements et tout ça. Tu dis, c'est pas lui. C'est lui. Oh, ben non, on dirait Juanito, là, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà.
Il y a l'exemple tout bête. Tu dis, oui, regarde, c'est des superstars. Il devrait jouer avec des. Lui, il devrait conduire une super voiture et tout. Et tu vois qu'il a une voiture simple. Tu dis, oh, mais lui, c'est un radin. De toute façon, pourquoi il fait ça? Tu vois, donc, tu sais même pas où te placer.
L'année dernière, ou il y a quelques années, N'Golo Kanté, oh regarde, il est extraordinaire N'Golo Kanté, il roule avec une Mini Cooper. Ah, parce que le même N'Golo Kanté, s'il avait conduit une autre voiture, ça aurait pas été un bon mec.
Ouais.
Juste parce que, bon, c'est... Bref, ça, on digresse, mais non, c'est ça le football, le footballeur. Il y a beaucoup trop de pression, on idéalise trop. Moi, ce que je veux, c'est que le joueur, il soit bon sur le terrain, qu'il soit... Ouais, qu'il ait une attitude, une certaine attitude, une certaine prestance, qu'il se rende compte qu'il est payé pour faire pour un peu divertir les gars, les supporters, et qu'il est privilégié et qu'il montre son talent, le talent qui est pour ce pourquoi il est là, et qu'on pense pas que c'est facile, parce que c'est dur d'être footballeur. Ça, c'est par contre ça, on pourrait en parler. C'est dur d'être footballeur. C'est pas seulement taper dans un ballon ou courir derrière un ballon.
Ouais.
Comme j'ai tout le temps entendu, vous êtes beaucoup payé quand même pour courir derrière un ballon. All right.
Tu vois ? C'est assez vrai.
C'est un autre débat, ça.
Ouais, c'est un autre débat, mais bon.
On l'avait un peu eu déjà dans le précédent épisode. Et après, ça me fait penser un peu à Zidane. Zidane, il a très peu eu de critiques pendant sa carrière. Les seules critiques qui ont un peu émané, c'est le fait qu'il parlait pas, qu'il donnait jamais son avis, que quand Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle, il ne se soit pas tellement opposé, qu'il n'ait pas forcément défendu l'Algérie, ou il a reçu des critiques parce qu'il était silencieux, quoi. Et c'est les seuls un peu critiques qu'il y a pu avoir autour de Zidane, alors que pourtant c'est une icône nationale et qu'il était intouchable, quoi. Mais on lui en a voulu de ne pas s'exprimer. Là où Mbappé, c'est un peu différent, parce que Mbappé, alors je ne sais pas si c'est lié à son âge ou à cette génération-là, ou alors juste sa personnalité, mais on l'a vu, lui, il s'est un peu engagé aussi, mais dans le foot, avec les sponsors en équipe de France. Il a remis en cause la convention qui régissait le droit à l'image, et notamment le fait de ne pas vouloir être associé à une marque comme KFC parce qu'il estimait que c'était de la malbouffe. Et c'est vrai qu'en retour, Alain Béral, donc, qui était le vice-président de KFC, lui, il a regretté un caprice en pleine crise de jeunesse à propos d'Mbappé.
C'est des mots forts, quand même.
C'est des mots un peu forts.
Bah, tu vois, c'est des mots... On parlait. Le mec, il ouvre la bouche.
Ouais,
c'est bon, tais-toi.
Ouais.
Donc, tais-toi. Enfin, voilà. Et je pense, dans l'attitude de Kylian, c'était Effectivement, je pense que c'était. Tu l'as sorti la marque.
KFC, ouais.
Merde, bon, KFC.
Bon, ouais, je peux dire McDo, Quick, voilà. Burger King.
Bah, c'est KFC, effectivement, quand tu es jeune, tu es footballeur professionnel, on te dit de manger des légumes, des fruits et des trucs comme ça, et pas du KFC. Pourtant, KFC, c'est le sponsor de la Fédé, parce que c'est la Fédé, ça ramène beaucoup d'argent. Et donc, lui, c'est légitime qu'il dise, mais attendez, moi, non, j'ai pas envie de prêter mon image à ça, parce que je pense qu'en tant que sportif au niveau, je veux faire de la pub pour des fruits et des légumes, éventuellement. Bon, il le dit, c'est honnête, c'est bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais tais-toi, on t'a pas sonné, toi. Bah, écoute, ferme ta gueule, alors. Ça veut dire ça, quoi. Et par contre, sur un autre sujet, il faudra parler. Mais là, non. Là, ça nous arrange pas, donc tu parles pas. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire, le sportif? Qu'est-ce qu'il doit faire, le footballeur? Fermer sa gueule. Et Zizou, c'est bien ce qu'il a fait. Parce que les rares fois où il a signé, il est allé au Qatar. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, il est allé au Qatar et tout. Donc, quoi qu'il fasse, il va être critiqué. Il parle, c'est pas bien. Il parle pas, c'est pas bien. Il fait un truc, c'est pas bien. Parce que quand ça va pas, quand ça correspond pas à nos critères et à nos valeurs, on est critiqué, il est critiqué. Donc, je pense que le footballeur, il doit, s'il a quelque chose à faire, c'est pour ça dès le départ, c'est quelque chose qui vient du cœur, il y va. Parce que quoi qu'il arrive, il sera critiqué, mais au moins, il le fera pour ses convictions. Plutôt que pour le fun.
C'était un peu la conclusion, parce que la conclusion, c'est de reprendre un peu la question de base, à savoir qu'est-ce qu'un joueur doit apporter à la société. Selon vous, c'est juste ce qu'il a dans le cœur et ce qui.
Putain, c'est beau ça.
Enfin, c'est un peu la conclusion, mais qu'est-ce qu'un joueur doit apporter à la société, du coup? Je me tourne vers notre invité.
Au début, tu avais dit que c'était un peu de la philosophie, donc en philosophie, on m'a dit qu'il n'y a jamais d'hors-sujet. Il n'y a jamais d'hors-sujet, non?
C'est vrai.
Non, je pense qu'il peut apporter beaucoup à travers. Déjà à travers son talent, parce que quand on voit ce qu'est capable de faire une Coupe du Monde, l'émotion que donne une Coupe du Monde, aussi le facteur économique qu'apporte une Coupe du Monde de football dans chacun des pays, peut-être même aussi les Jeux Olympiques, donc le sport en général, ça apporte énormément déjà à la société. Ça apporte aussi du bonheur, donc ça c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, mais il doit se protéger. Je pense que si on doit utiliser le verbe devoir, c'est devoir se protéger. Ne pas parler tout haut et tout fort ce que tu penses, à moins que ça soit vraiment tes convictions et que tu puisses argumenter. Et peut-être un jour t'asseoir à une table de politiciens et de discuter sur ce sujet-là. Mais sinon, il faut s'en tenir à pourquoi on a reçu ce don-là. Et ce don-là, avant tout, c'est fait pour divertir et apporter du bonheur, que ce soit maintenant tous les jours de la semaine, parce qu'il y a du football tous les jours de la semaine à la télé. Et c'est pour ça, justement, que les gens t'aiment. À la base, c'est pas parce que t'es quelqu'un de bien, c'est pas parce que t'es une belle personne, c'est parce que t'es un bon footballeur.
Rien à rajouter, Edouard?
Non, j'allais sortir un truc bateau, mais bon.
Vas-y.
Non, Non, le footballeur, on ne doit rien attendre de lui, par contre, de l'homme qui est derrière le footballeur. Mmh. Oui.
Ben, ça sera la conclusion.
Ouais, okay.
Si certaines personnes veulent aider ta fondation, comment faire ou qui contacter
Déjà, avant tout, de se rendre sur notre site officiel. Et là, ils pourront déjà apprendre un peu plus qu'est-ce que notre travail, qui travaille, quels sont les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et quels sont leurs rêves, parce que c'est ça aussi le plus important. Et après, il y aura une icône pour nous soutenir. Et comme j'ai dit, on ne refuse jamais une main tendue et on les remercie d'avance.
Très bien. Merci d'être venu, Joshua.
Avec grand plaisir.
Joshua, merci pour tout.
Merci à toi.
C'était un vrai coup.
À hâte de faire notre 55.
Ouais.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.